Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous, si vous nous retrouvez, on est en direct, on est ensemble jusqu'à 20h avec le journal dans quelques secondes et à 19h20, le grand débat du Club des Idées consacré ce soir aux solutions pour sauver nos jeunes et les étudiants. Avec la crise, ils n'ont plus de boulot, la précarité augmente, alors faut-il créer par exemple un revenu minimum comme le réclament de nombreux élus? Et pourquoi faut-il attendre 25 ans d'ailleurs pour y avoir droit? On en parlera avec nos invités. Le journal d'abord avec Isabelle Millet. 19h, vous êtes bien à l'écoute d'Europe 1.
Et des chiffres, dès le début de ce journal, ceux des effets secondaires liés à la vaccination.
Des chiffres et surtout des explications grâce à notre spécialiste Anne Le Gall.
C'est l'une des conséquences directes de l'épidémie de Covid. Elle a fait chuter de plusieurs mois l'espérance de vie des Français.
L'INSEE a également constaté une baisse de la natalité l'an dernier.
Il a pu reprendre son travail sans ce poids sur les épaules. Rencontre dans ce journal avec l'apprenti boulanger guinéen de Besançon dont le patron s'était battu pour sa régularisation.
À Strasbourg, Jean-Marc Rézère est passé aux aveux. Enfin, depuis le départ, il était le suspect numéro dans le meurtre de l'étudiante Sophie Le Tan.
Demain, il sera président des États-Unis. Dernière journée de citoyen presque normale pour Joe Biden. On sera en direct de Washington.
Et puis la libération d'Alexei Navalny, on en parle également. Le Kremlin ne veut pas en entendre parler. Poutine ne lâchera rien, nous dira Didier François.
Qui nous expliquera également que l'opposant savait pertinemment ce qu'il attendait en rentrant à Moscou.
De la douceur demain au programme de notre
c'est
météo,
la bonne
ça
nouvelle
nous fait du bien,
du
ça,
jour
ça.
Pour demain. Nous aurons moins de gelées matinales, une hausse des températures l'après-midi. Mais attention, demain, le vent va souffler fort sur toute la France. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le gouvernement avait promis la transparence dans tous les domaines sur cette crise sanitaire et en particulier sur la vaccination. Chaque semaine, il publie donc des chiffres qui aujourd'hui, sans explication, peuvent interroger.
Oui, Anne Le Gall, ça tombe bien, vous êtes là pour nous les décrypter, ces chiffres. 139 cas d'effets indésirables et 5 décès en France. Ça peut paraître beaucoup et ça mérite une explication, la vôtre.
Alors déjà, sur ces 139 cas indésirables, on compte seulement une vingtaine de cas graves qui ont été pris en charge et pour lesquels les patients se sont rétablis. Ensuite, concernant les 5 décès, l'Agence nationale du médicament précise ce soir que rien ne permet d'établir un lien de cause à effet avec la vaccination. Ces décès sont tous survenus chez des personnes âgées qui vivaient en EHPAD. L'ANSM rappelle qu'il y a statistiquement 465 décès et 1000 hospitalisations qui surviennent dans les établissements pour personnes âgées chaque jour, en dehors du contexte d'épidémie de Covid. Alors, bien sûr, ces décès survenus après vaccination feront l'objet de recherches plus poussées, mais à ce stade, selon l'Agence du médicament, il n'y a pas de signal de sécurité inquiétant. Et rappelons que depuis le début de la campagne, les médecins et les patients peuvent signaler tout effet inattendu du vaccin au centre de pharmacovigilance installé dans les hôpitaux ou sur Internet via un site spécifique. Ces données sont ensuite analysées en temps réel par les autorités sanitaires pour pouvoir donner l'alerte très vite, évidemment, en cas de doute sur un effet inattendu.
Merci Anne Le Gall du service Société d'Europe 1. Et notez que Morissette, la toute première française vaccinée, a reçu sa deuxième dose. Aujourd'hui, elle va bien, contrairement aux fausses rumeurs qui ont circulé un temps sur les réseaux sociaux.
Le ministre de la Santé a précisé ce matin que les mesures de couvre-feu mises en place dès le 2 janvier, que ces mesures commencent à prouver leur efficacité avec un nombre de nouveaux cas plutôt en baisse.
Les autorités qui recommandent par ailleurs de ne pas utiliser les masques en tissu artisanaux, c'est ceux qui sont faits à la maison, moins efficace contre le virus et en particulier contre les différentes variantes.
Une épidémie de Covid qui a fait perdre aux Français plusieurs mois d'espérance de vie, c'est l'INSEE qui le dit. Carole Ferry, 2020 aura été une année noire pour la démographie.
Effectivement, oui, puisque vous avez d'un côté une très forte hausse de la mortalité, près de 54 000 décès de plus qu'en 2019, soit 9% de plus. Sans surprise, cette surmortalité est plus importante, plus 10% chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Et mécaniquement, cela entraîne en effet une baisse de l'espérance de vie. Elle passe en 2020 à 85,2 ans pour les femmes, c'est 5 mois de moins qu'en 2019. 79,2 ans pour les hommes qui perdent 6 mois d'espérance de vie en un an. De l'autre côté, vous avez les naissances qui sont en chute libre sur un an, au plus bas depuis 1945, avec 16 000 naissances en moins. Alors il y a une donnée qui n'apparaît pas encore, ce sont les naissances qui pourraient découler du confinement. Enfin, à noter que le nombre de mariages a également fortement diminué, 75 000 de moins que l'année précédente, une chute historique.
Précision signée Carole Ferry du service Écho d'Europe 1.
On pensait pourtant que pendant le confinement du printemps, ça aurait pu susciter une forme de baby-boom, si vous voyez ce que je veux dire. À Besançon, la joie de l'apprenti boulanger guidéen qui sera finalement régularisé grâce à la mobilisation de son patron qui avait entamé une grève de la faim.
Oui, on vous avait raconté cette histoire sur Europe 1. Et bien aujourd'hui, Arthur Enbaché a pu rencontrer le jeune homme.
3h ce matin, au fournil, retour au travail pour l'apprenti boulanger après les 10 jours de grève de la faim de son patron et sa régularisation.
Quand on a gagné ce combat, c'était comme si je venais de naître et commencer une nouvelle vie. Je suis heureux, ému. Je remercie beaucoup mon patron pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il a mis sa santé en danger pour moi. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de me concentrer sur mes études parce que c'est ça que j'ai demandé.
Avec le CAP bientôt ?
Oui, le CAP, dans quelques mois.
Le CAP et le combat qui se poursuit et qu'entend mener Stéphane Ravaclet, le patron de Lay Faudé Traoré.
Des gamins comme Lay, il y en a des milliers en France. S'ils vont au travail, c'est qu'ils veulent avoir une vie meilleure. S'ils sont venus en canot de sauvetage, c'est qu'ils veulent une vie meilleure. Et s'il n'y a pas d'autres gamins qui veulent prendre la place, eh bien qu'on les laisse travailler. Moi, au mois de septembre, quand j'ai fait un appel d'apprentis, personne n'est venu autre que les migrants. Donc c'est qu'il y a bien un problème.
Et justement, avec le boulanger et son apprenti, lors de la petite conférence de presse organisée ce midi, il y avait un autre jeune Guinéen, fraîchement majeur, apprenti électricien à Pontarlier, et qui fait l'objet lui aussi d'une obligation de quitter le territoire. Besançon, Arthur Enbaché, Europe 1.
19h06, la suite du journal. Emmanuel Macron indique que la France s'apprête à ajuster son effort au Sahel où est déployée la force Barkhane.
Oui, grâce, dit-il, aux résultats obtenus et à l'intervention plus importante de nos partenaires européens, le chef de l'État qui ne précise pas toutefois le nombre d'hommes qui seront concernés ni le calendrier pour l'instant.
On part à Washington à présent. J-1, ça y est, nous y sommes presque avant l'investiture de Joe Biden.
Et oui, à cette heure-ci, demain, Donald Trump ne sera plus président des États-Unis. On vous retrouve en direct de Washington. Alexis Guyeux, vous êtes le correspondant d'Europe 1. Alors, tout est prêt. Et alors que Trump fait ses valises, peut-être en ce moment, Joe Biden, lui, arrive dès ce soir à Washington.
Oui, c'est ça. Dans l'après-midi, ici à Washington, Joe Biden va quitter sa ville de Wilmington, dans le Delaware, pour la capitale fédérale. Un trajet un peu différent de ce qui était prévu. Vous savez, il devait prendre le train pour venir jusqu'à Washington, comme il l'a fait tous les jours au cours de sa carrière de sénateur. Projet finalement avorté en raison des menaces de sécurité. Le temps fort de ce mardi, ce sera à 17h30 heure locale, 23h30 en France. Joe Biden va participer à une cérémonie en hommage aux victimes du Covid, 400 000 morts aux États-Unis. Il prendra la parole devant le Lincoln Memorial et c'est vraiment sur ce thème que Joe Biden veut se démarquer de la présidence Trump. Pendant ce discours, il fera face à des milliers de petits drapeaux américains qui sont installés sur le National Mall pour remplacer le public qui ne pourra pas venir à l'investiture de demain. Le président élu dormira ensuite cette nuit à la Blair House, c'est la résidence pour les invités officiels, elle est située juste à côté de la Maison Blanche, dans l'attente donc de cette journée de demain, celle que Joe Biden attend depuis le début de sa carrière politique il y a près de 50 ans et qu'il verra devenir le 46e président des États-Unis.
Et on va beaucoup vous retrouver dans les prochaines heures, merci sur l'antenne d'Europe 1. Alexis Guyeux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Oui, édition spéciale à suivre demain, évidemment à partir de 18h avec nos experts, nos envoyés spéciaux et nos invités, ils seront nombreux. Pendant ce temps-là, pour le Kremlin, c'est niet, pas de compromis, pas de mise en liberté conditionnelle, aucun geste d'apaisement. Alexei Navalny restera donc en prison malgré les nombreux appels à la clémence lancés par les Occidentaux au cours de ces dernières 24 heures.
À commencer par l'équipe de Joe Biden justement qui exige la libération immédiate de l'opposant arrêté dès son arrivée en Russie. On en parle avec notre spécialiste des affaires internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors c'est clair, ça vient de haut. Vladimir Poutine ne pliera devant aucune pression.
Absolument. Le tsar ne peut pas céder. Il ne veut pas donner une impression de faiblesse face à un opposant qu'il met au défi avec, finalement, la seule force de sa volonté. Alexei Navalny aurait pu rester tranquillement en Allemagne après avoir été miraculeusement sauvé de la tentative d'assassinat menée contre lui par les services secrets russes avec une arme chimique de fabrication militaire, ce qui prouve quand même la détermination extrême du Kremlin à se débarrasser de lui par tous les moyens. C'est d'ailleurs certainement ce qu'espérait Vladimir Poutine, qui a déjà poussé à l'exil d'autres opposants, comme l'oligarque Mikhail Rodorovski, ancienne première fortune de Russie, qui avait eu la très mauvaise idée de croire que son argent lui offrait la liberté de critiquer le régime. Il a été broyé par la machine sécuritaire, emprisonné en 2003 à la suite d'une accusation d'escroquerie, d'ailleurs tout comme l'est aujourd'hui Navalny. Il a passé 10 ans enfermé dans une colonie pénitentiaire de Sibérie, sur la frontière chinoise. Il a échappé à une tentative d'assassinat, lui aussi, dans sa cellule. Des coups de lame portés par un détenu de droit commun. Et là, il a craqué, il a accepté la grâce de Vladimir Poutine contre son départ définitif du pays, le même marché que refuse aujourd'hui Alexei Navalny.
Il a donc pris un énorme risque en rentrant à Moscou.
Oui, et il en était tout à fait conscient. Il savait parfaitement qu'il serait arrêté dès son arrivée sous des prétextes les plus fallacieux. On en a eu la preuve. Son avion a d'abord été dérouté, puis il a été emmené sans avocat dans un commissariat de quartier transformé en tribunal et condamné, tenez-vous bien, pour le non-respect d'un contrôle judiciaire pendant qu'il était dans le coma en soins intensifs après son empoisonnement au Novitchok. C'est effrayant, mais c'est exactement ce que voulait démontrer Alexei Navalny. La brutalité sans limite des réactions du Kremlin lorsque l'on ose braver sa toute-puissance. Mais ça, c'est l'autre leçon de ce défi. Un individu qui refuse de céder à la peur fait trembler le système. Sur ces bases, c'est ça qui inquiète Vladimir Poutine, que ce courage personnel devienne contagieux, parce que Alexei Navalny, ben finalement, c'est le petit grain de sable qui grippe sa belle mécanique autoritaire.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous 19h10. Dans quelques instants, l'assassin de Sophie Le Tan à Strasbourg a fini par craquer.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal 19h12 avec Isabelle Millet. Alors jusqu'à présent, il avait toujours nié. Jean-Marc Rézère est donc finalement passé aux aveux dans l'affaire du meurtre de Sophie Le Tan.
Oui, c'est cette étudiante strasbourgeoise qui avait disparu en septembre 2018 alors qu'elle avait rendez-vous pour visiter un appartement. Dès le départ, les preuves contre Jean-Marc Rézère étaient accablantes. Du sang de la jeune fille avait été retrouvé chez lui et sur le manche d'une scie qui lui appartenait. Pourtant donc, jusqu'à maintenant, il a toujours farouchement nié ce meurtre, Mélina Fachin.
Oui, Jean-Marc Rézère avoue avoir tué Sophie Le Tan, découpé son corps pour aller l'enterrer en forêt, mais il nie avoir prémédité son acte. Une dispute aurait éclaté avec l'étudiante, dit-il, et il aurait alors complètement perdu ses moyens. Pierre Durato, l'un des avocats de Jean-Marc Rézère, est satisfait que son client soit enfin passé aux aveux.
Je pense qu'il y a un ensemble de raisons qui ont poussé M. Rézère aux aveux. Le poids de la honte. Qu'il exprimait des regrets, que ce qu'il avait dit lui avait permis aussi de s'alléger un peu, donc d'alléger sa conscience. Donc je pense qu'il y a tout ça aussi à titre personnel, et qu'il fallait qu'il explique ce qui s'était réellement passé, qu'il puisse tenter de convaincre une cour d'assises.
Pour les proches de Sophie Le Tan, impossible de parler de soulagement, mais ses aveux, il les attendait depuis des années. Gérard Welzer, leur avocat.
Sophie était un tel diamant, avait de telles qualités que rien ne pourra atténuer la douleur de la famille. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un procès et que la famille puisse continuer son travail de deuil.
Un procès qui pourrait avoir lieu au plus tôt, fin 2021.
Mélanie Fachin à Strasbourg pour Europe 1.
Merci Isabelle, on vous retrouve demain à partir de 18h pour notre édition spéciale consacrée à la passation de pouvoir avec Joe Biden. En attendant, on parle météo avec Anissa. Attention, prudence demain sur l'ensemble, quasiment l'ensemble du territoire, il va y avoir de gros coups de vent.
Oui, c'est le vent du sud qui souffle demain pour tout le monde, avec en particulier dans la vallée du Rhône des rafales à plus de 100 km/h. Dans les Pyrénées aussi, ça va souffler fort, du vent tempétueux. Dans le ciel, il fera gris sur une grande partie du pays, avec sur les Cévennes et la Bretagne, des pluies très soutenues.
Merci Anissa. 19h14, dans quelques secondes, on parlera du péril jeune et de l'idée d'instaurer un revenu minimum. D'abord, la carte blanche signée ce soir, Éric Fotorino.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Éric Fotorino.
Bonsoir Julien.
Co-fondateur du 1, l'hebdo, de Zadig, de la revue América, qui sort d'ailleurs son dernier numéro demain, absolument passionnant, j'ai eu la chance de le feuilleter. Mais ce soir, c'est de votre dernier livre que vous allez nous parler, c'est un recueil d'articles intitulé « Doit-on avoir peur ?». Alors de quelle peur parlez-vous Éric Fotorino?
Alors c'est toutes les peurs qu'on a agrégées depuis un an quand on fait comme vous, Julien, des journaux. Donc nous, chaque semaine, on essaie de capter l'actualité et les peurs se sont accumulées. Alors évidemment, il y a bien sûr la peur sanitaire qui est liée à la pandémie et toutes les conséquences qu'elle a, c'est-à-dire la peur des GAFA, de la société de surveillance qui vient là pour des raisons qui sont légitimes mais qui en même temps, évidemment, inquiètent sur nos libertés. Et puis, il y a bien sûr la peur terroriste. On l'a vu en tout début d'année dernière avec le procès Charlie. Et puis, évidemment, l'assassinat terrible de Samuel Paty. C'est, là encore, pour les libertés, mais aussi le terrorisme islamique qui est présent dans notre pays et qui, évidemment, est une menace. Mais aussi, c'est les peurs industrielles. Souvenez-vous, Lubrizol à Rouen, avec le risque industriel qui est là, avec du gaz. Donc, on sait bien qu'on ne peut pas être protégé de tout. Mais il n'empêche que si on ajoute tous ces risques, le risque alimentaire, le risque nucléaire, on voit bien qu'on est dans une société où les risques et donc les peurs qui en découlent sont nombreux.
Mais on va parler d'une note d'espoir quand même avec vous, Eric Fotorino, parce que c'est vrai que quand on met tous ces événements bout à bout, c'est vrai que ça, c'est très anxiogène et ça fait peur. Mais le dicton populaire dit que la peur n'évite pas le danger. Alors n'est-ce pas plus dangereux d'avoir peur finalement?
Alors, c'est vrai qu'il y a une sorte de pédagogie de la peur. Bien sûr, c'est vrai que c'est ce dicton que disait ma grand-mère. Hein. La peur n'évite pas le danger. Autrement dit, bah, prends ton risque. Et si tu penses à la peur, tu seras paralysé. Alors, nous, on a interrogé ce philosophe qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis, oui. Qui est un spécialiste notamment du risque nucléaire. Et qui dit qu'en fait, si on n'a pas peur, on oublie le risque. Et c'est là qu'on est en danger. Autrement dit, cette peur, par exemple, de l'explosion nucléaire, mais cette peur qui est dans bien d'autres domaines, il faut toujours la voir, ne pas la perdre de vue, parce que c'est elle qui nous maintient dans une certaine vigilance. Mmh. Mais comme le disait Montaigne, cité par André Comte-Sponville dans ce recueil, il dit, qu'est-ce qu'il dit Montaigne ? Ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur. Et donc, c'est pourquoi notre époque me fait peur, elle est effrayante à force d'être effrayée. Donc, voilà, vous savez, c'est comme le disait le médecin suisse Paracels, rien n'est poison, tout est poison, le poison c'est la dose. Donc il faut quand même instiller une certaine peur, mais pas trop, pour continuer à vivre.
C'est le mot que j'allais utiliser pour conclure, tout est question de dosage, voilà. Évidemment. Merci infiniment Eric Fotorino, et n'hésitez pas à découvrir dans vos librairies demain et vos kiosques le dernier numéro de la revue America. Merci Eric.
Au revoir.
Merci. Europe 1, Julien Bugier.
19h17, vous restez avec nous dans quelques secondes. La grande déprime des jeunes, on s'y intéresse donc avec nos invités. Et cette question, faut-il créer un revenu minimum pour eux? On en débat, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des Idées à 19h20, comment aider nos jeunes? Vaste question, financièrement, moralement, le constat est alarmant selon toutes les grandes études. Il y a une détresse immense chez les étudiants, notamment cours à distance, confinement dans des petits logements et surtout manque d'emploi et de revenus. Il n'y a plus de petits jobs. De nombreux élus réclament ainsi un revenu minimum pour les jeunes. Alors, bonne ou mauvaise idée? On en parle ce soir avec nos invités. Bonsoir Julien Damon.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, auteur de nombreux ouvrages sur la pauvreté des protections, de la protection sociale notamment. On en parle également avec Christian Saint-Etienne. Bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers. On en parle également avec Marc de Basquia. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste et président de l'association pour l'instauration du revenu d'existence. Et puis on entendra dans quelques instants le témoignage d'Antoine. Antoine qui est étudiant et qui nous racontera son quotidien. Il a aussi, vous le verrez et vous l'entendrez, du mal à s'en sortir. Peut-être un premier mot sur le constat, Julien Damon. C'est vrai que les chiffres sont affolants, on en parle régulièrement dans les journaux d'Europe Soir. Aujourd'hui, ce sont plus d'un million de jeunes qui sont en situation de grande pauvreté. Il y a donc urgence à agir.
Je pense qu'il y a en effet urgence à agir parce que le coronavirus fait des victimes sanitaires, ce sont les personnes âgées, et il fait des victimes économiques, ce sont les jeunes. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas avoir une vision trop catastrophiste. Un million de jeunes en situation de grande pauvreté, ce n'est pas simplement pour faire le malin, mais il faut savoir de quoi on parle en matière de pauvreté. Si on regarde ce qu'est la part des jeunes aujourd'hui sous un seuil de pauvreté à 1 000 euros par mois pour une personne, vous avez un cinquième des jeunes, c'est vrai. Mais ça n'est pas du dénuement intégral, oui, pour un million de personnes. Vous avez des situations extrêmes,
mais
de pauvreté,
ça
scandales.
Ça s'ajoute à une détresse psychologique très importante, c'est-à-dire qu'il y a très peu de cours en présentiel, difficultés sociales avec le couvre-feu. 69% des étudiants sont en détresse psychologique et s'inquiètent pour leur santé. 30% ont des troubles anxieux et dépressifs. 22% ont des pensées suicidaires, selon l'Ipsos. Et le taux de décrochage explose. J'ai découvert le chiffre tout à l'heure. Il atteint, par exemple, plus de 40% des étudiants en droit. Comment, vous, Marc de Basquia, vous qualifiez cette situation?
Cette situation est très difficile. Je connais évidemment, ne serait-ce que pas mes enfants, pas mal d'étudiants qui sont tous face à cette situation très particulière, et que leurs parents aient les moyens de les aider financièrement ou pas, ça résout pas tellement la question. C'est qu'ils sont vraiment dans une grande détresse par absence de perspective et par absence de relations sociales. C'est un âge qui, effectivement, qui nécessite d'avoir des interactions de diverses natures qu'ils n'ont pas. Donc c'est très difficile, je dirais, psychologiquement. Ensuite, l'aspect monétaire, on le verra après. Mais...
Oui, mais c'est une donne aussi importante, parce qu'on n'y pense pas beaucoup, mais il n'y a plus de petits jobs en ce moment. Et l'hôtellerie, la restauration, qui sont les jobs les plus importants, notamment quand on a besoin d'arrondir les fins de mois, quand on a un travail en parallèle de ses études, Christian Saint-Etienne, ça représente un manque à gagner énorme pour tous ces jeunes.
Alors, beaucoup d'étudiants ont des jobs qui les occupent 8 à 20 heures par semaine. Ce n'est pas d'ailleurs sans effet sur leurs études et leur capacité à mener des études approfondies. Mais vous l'avez dit vous-même en introduction, c'est la conjonction de l'isolement et de la perte de revenus. Mmh. S'il n'y avait que la perte de revenus, comme l'a dit Julien, comme vous venez de le dire, Julien Damon. comme l'a dit Julien Damon, on pourrait probablement résoudre le problème assez vite. Je pense que la détresse, la pire aujourd'hui, c'est la détresse psychologique. À un âge où les étudiants, notamment de première année, sont en perte de repères parce qu'ils sortent du lycée où ils étaient extrêmement encadrés. Et puis, c'est quand même une affaire qui dure. Alors, je pense aussi que le gouvernement contribue à cette détresse en étant assez catastrophiste en permanence.
Oui, donc, les chiffres sont là quand même, hein, sur les études de l'Ipsos.
Quand vous êtes en détresse, c'est parce que vous n'avez pas de perspective. Oui. Donc, si quand on met le couvre-feu à 18h, on dit dans la même seconde que de toute façon, on ne va pas couper à un nouvel internement collectif, ça ne redonne pas de la confiance. Donc, je pense qu'en fait, il faut tenir un autre discours. Je pense qu'il y a toutes les raisons de penser qu'il y aura une amélioration considérable à partir du printemps et qu'il faut anticiper cette amélioration.
Alors, on est en ligne, je le disais, avec Antoine. Bonsoir Antoine, vous êtes étudiant en double master 1 droit santé à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. Quel âge avez-vous, Antoine ?
J'ai 21 ans.
Vous avez 21 ans. Qu'est-ce qui est le plus dur aujourd'hui pour vous ? Est-ce que c'est l'isolement avec toute la détresse psychologique qu'on vient d'évoquer qui va avec ? Ou est-ce que c'est la baisse de revenus et votre situation financière ? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ?
Je pense que c'est un sentiment assez général pour beaucoup d'étudiants, pas seulement pour moi, qui allie ces deux perceptions, la perception financière d'un côté et le côté, on va dire, psychologique et morale de l'autre.
Oui. Vous avez du mal à joindre les deux bouts aujourd'hui ?
Oui, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est vrai, j'ai perdu du coup mon emploi assez récemment à cause de la crise du Covid-19. Et c'est vrai que c'est compliqué financièrement de joindre les deux bouts, de pouvoir, on va dire, penser pleinement ses études sans avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête.
C'était quoi cet emploi, sans être indiscret, Antoine ?
C'était un emploi en temps partiel d'un peu plus de 20 heures dans une enseigne de prêt-à-porter française.
D'accord. Et vous avez été licencié ou c'est lié au Covid, j'imagine, à la crise ?
Oui, c'est lié au Covid, mais assez indirectement. Bah, du coup, je suis étudiant en droit, donc le contrat était relativement peu légal. J'ai déménagé récemment, du coup, à Saint-Étienne pour une mobilité master. J'étais déjà dans cette enseigne quand j'étais à Dijon, à l'Université de Bourgogne. Ça se passait très bien, j'avais un CDI, j'ai travaillé depuis 2 ans. J'ai réussi à obtenir un emploi, mais tout en démissionnant dans l'autre enseigne lyonnaise, j'ai réussi à avoir un CDD, qui est qualifié de CDD d'essai. Bon, déjà, quand on a ce genre d'intitulé sur un contrat de travail, on émet des doutes. Et puis c'est-à-dire que, voilà, après un mois de CDD d'essai et l'arrivée du second confinement, mon contrat...
Vous habitez à Dijon, hein, c'est ce que vous dites, hein.
J'habitais à Dijon à l'époque.
Ouais. Combien vous avez, très concrètement, aujourd'hui, pour vivre ?
Aujourd'hui, en tout pour vivre, j'ai environ 900 euros. Et,
au mois, pas par jour alors.
Au mois. Par jour.
Non, par jour, ça ferait beaucoup. Vous m'avez fait peur.
Oui, oui. Non, si seulement. Non. Mais de reste à vivre, oui, si on calcule et qu'on divise par un mois de 30 jours, j'ai un reste à vivre qui équivaut à 4 euros.
4 euros. Bien. Vous restez avec nous, Antoine. On va marquer une première pause et on va se retrouver avec nos invités parce qu'on va parler de cette dimension financière, évidemment, et de cette proposition de nombreux élus d'instaurer un minimum pour les jeunes, une aide minimale pour les jeunes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, avec la suite du débat du Club des Idées à 19h30, et on s'intéresse à la jeunesse, les étudiants qui vont mal financièrement et moralement, c'est un constat partagé par tous. Alors on va s'intéresser maintenant à la manière de les aider, notamment financièrement, avec cette proposition qui commence à se répandre, notamment chez les élus, de Rachida Dati à Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui milite notamment pour un minimum jeunesse. C'est indispensable, dit-il. Écoutez-le.
Ces jeunes qui rentrent dans la vie et qui rentrent, en fait, en commençant par la soupe populaire, qui ne peuvent plus, aujourd'hui, se loger dans de bonnes conditions, qui ne peuvent plus manger, qui sont isolés. Eh bien oui, dans les moments comme cela, il faut évoluer.
Alors, un revenu minimum pour les jeunes. Julien Damon, vous êtes sociologue. Est-ce que c'est une bonne idée ?
Ça dépend une nouvelle fois du contenu que l'on donne à ce revenu minimum pour les jeunes. Dans une certaine mesure, on pourrait dire que ça existe déjà. Il existe un dispositif qui s'appelle la garantie jeunesse, la garantie jeune, qui est valable pour une centaine de milliers de jeunes aujourd'hui, qui devrait passer à 200 000 jeunes, 500 euros par mois. Le grand débat, c'est de savoir s'il faut abaisser l'âge de l'éligibilité du RSA de 25 ans à 18 ans.
Il y a deux aspects. Il y a ce revenu minimum, et puis il y a l'abaissement effectivement du RSA à 18 ans contre 25 ans aujourd'hui.
La meilleure solution, c'est d'abaisser le RSA à 18 ans.
On va en parler juste après. Marc de Basquiat, vous êtes favorable à l'instauration d'un revenu minimum. Simplement pour poser les choses, je rappelle les chiffres de ce qu'est aujourd'hui un budget étudiant, un budget jeune. Selon l'Ipsos, ce budget, il est de 637 euros en moyenne pour l'année 2019. Ce sont les derniers chiffres qui sont à notre disposition. Un budget alimentaire, c'est d'environ 200 euros par mois. Et on sait le prix des logements quand on habite dans des villes avec une tension importante, Lyon, Bordeaux, Paris, pour joindre les deux bouts, c'est très compliqué. Votre avis ?
Alors l'avis, c'est que en fait, nous avons un nombre important d'outils aujourd'hui qui s'adressent à cette zone des 18-25 ans.
Oui.
Nous avons des aides qui sont versées aux parents, nous avons des aides qui sont versées aux jeunes, nous avons des réductions fiscales pour les parents, nous avons des dispositifs variés, j'en dénombre 20. Nous avons aujourd'hui 20 dispositifs d'aide monétaire par rapport à cette tranche des 18-25 ans,
oui,
qui s'adresse à différents âges, ainsi de suite. Et quand on fait la somme de tout ça, effectivement, on se rend compte qu'il y a plein de trous. Et plein de trous, c'est plein de cas particuliers, plein d'exceptions, et plein de trucs. Il y a des aides aussi qui sont plutôt pour les parents riches, qui n'existent pas pour les parents pauvres. Donc on a quelque chose qui est tout à fait incohérent. Et donc l'idée d'un revenu universel pour les jeunes, c'est consiste à dire, les 20, on les supprime, et on dit maintenant, on va donner à chaque jeune de l'ordre de 500 euros par jeune.
Que le principe du revenu universel...
Voilà. Et on dit dès 18 ans,
avait été défendu par Benoît Hamon et par un certain nombre de libéraux. C'est quoi la bonne chose pour ce revenu universel pour les jeunes ?
C'est déjà, on s'assure qu'ils aient des aides au logement. C'est-à-dire qu'ils sont, s'ils sont chez leurs parents, évidemment, les parents les logent, mais s'ils ne sont pas chez les parents, il faut les aider à se loger. Ça, c'est indispensable.
Et il y a déjà des aides au logement, mais elles sont...
Bien sûr, ça, il faut conserver. Ça, c'est important.
Il faut les conserver.
Je dis qu'il faut les conserver, ça, c'est extrêmement important. Il faut que les jeunes puissent être en situation d'autonomie physique, je dirais, de leur logement par rapport à leurs parents. Ça, c'est important. Et ensuite, un montant de 500 euros dès 18 ans à tous les jeunes, en supprimant toutes les aides qui sont transférées aux parents, un enfant, à 18 ans, ça devient un adulte. Donc, il n'y a plus aucune raison de garder des aides pour les parents, aucune.
Donc, est-ce que dans votre idée, dans votre proposition, ça s'ajoute aux éventuelles bourses que touchent les enfants boursiers ?
On supprime.
On supprime.
Les bourses,
donc, ça veut dire qu'au bout du bout, certains étudiants toucheront beaucoup moins.
Il y a des bourses pour critères sociaux. Et donc, quelque part, la proposition de revenu universel, quelque part, est de même nature. Par contre, il y a des bourses au mérite. Là, c'est très différent. Là, dans le cadre d'une relation avec une institution, l'éducation, là, il y a une justification à conserver des bourses au mérite parce qu'il y a des situations particulières. Là, on conserve, bien sûr. Mais les bourses pour critères sociaux ont vocation à disparaître.
Christian Saint-Etienne, favorable ou non à l'idée d'une instauration d'un revenu minimum pour les jeunes ?
Bon, je vais me faire des avis, mais je suis radicalement contre.
Ça m'aurait
aussi bien pour les jeunes que pour les adultes.
Oui, pourquoi ?
Je suis... alors, ici, on parle de... Je suis radicalement contre un revenu minimum universel donné à tout le monde, comme cela a été et comme cela est souvent proposé. D'abord, déjà, on vient d'en avoir une illustration. Si on fait un revenu universel... Est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on supprime les aides au handicap ? Est-ce qu'on garde ou on supprime les aides au logement ? Ainsi de suite.
Ça, on se répond
beaucoup,
à ça, bien sûr.
Beaucoup de gens qui proposent ces mesures disent qu'on va garder toutes les aides. Par ailleurs, C'est pas une critique et on n'est pas là pour se battre, mais vous disiez à l'instant que vous garderiez les aides au logement tout
Bien
en
sûr.
Ayant l'aide minimale.
Bien sûr.
Alors, il se trouve que moi, je suis prof d'université, que j'ai vu les choses de près. Donc, si vous voulez, dans un monde parfait, tout est possible. Mais dans le monde réel, donner un revenu à des étudiants qui ne se présentent même pas aux cours, qui ne viennent même pas au TD, qui ne passent même pas les examens, si vous voulez, si nous étions capables de dire ce revenu, il est donné en contrepartie. Pardon ?
C'est peut-être à cause du professeur, ça. Non, je
non,
te
non.
blague, Christian.
Ah, non, non, je ne parle pas des miens, je parle de manière, de manière générale.
C'était un trait de
Et donc, oui, mais la pique était amusante. Simplement, le point central, c'est que si, en France, on est incapable de faire ça. Moi, je me souviens, avant d'être dans le poste où je suis, j'étais dans une fac de province.
Oui.
L'idée de simplement vérifier que les étudiants boursiers étaient effectivement présents dans les TD ou dans les cours était inenvisageable. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut, et je termine par là, je suis totalement favorable à une aide ponctuelle aussi longtemps qu'il y a le Covid. Parce que justement, et l'idée, c'est d'aider les jeunes qui avaient un emploi et qui ne l'ont plus.
Oui.
Donc, c'est une aide sous condition et temporaire, mais une aide universelle et permanente, c'est une erreur à la fois sur le plan sociologique,
oui.
mais aussi sur le plan philosophique.
Alors,
parce que ce n'est pas comme ça qu'on prépare les gens à la citoyenneté.
On est toujours en ligne avec Antoine, ce jeune étudiant qui nous a expliqué sa situation tout à l'heure. Quelle serait, dans un monde idéal, comme le disait Christian Saint-Étienne, mon cher Antoine, l'aide qui serait la plus pertinente à vos yeux en tant qu'étudiant ?
D'après moi, un revenu universel a totalement sa place pour des jeunes étudiants. Puisque, quelque part, quand on défend des valeurs comme l'égalité des chances, il est nécessaire de la donner effectivement et, quelque part, contraindre financièrement des jeunes à travailler pendant la durée de leurs études. Et encore, j'ai eu la chance de ne pas avoir encore eu de redoublement ou de passer de rattrapage, mais je pense que je suis quand même une exception.
Quel est le poste de dépense le plus important pour vous dans votre vie quotidienne ? C'est le logement ?
Ah oui, tout à fait, oui, c'est le logement.
Oui.
Et donc là, la réponse, c'est la construction publique de logements pour les étudiants.
Et vous bénéficiez, vous, d'APL, d'aide au logement, Antoine ?
Oui, absolument.
Oui. Combien ?
Une valeur de 180 euros.
Pour un logement qui vous coûte combien par mois, à peu près ?
630.
Et vous
donc,
savez
ça veut dire
que quand
vous avez 500 euros de votre poche.
Vous savez que quand on a créé les APL, ça s'est traduit non pas par une baisse du coût du logement pour les étudiants, mais par une hausse des loyers quasiment euro pour euro.
Mais, pardon,
et donc ça s'est transformé en aide aux personnes qui sont propriétaires des logements.
Juste sur ce point, Julien Damon, on connaît tous la condition aujourd'hui des étudiants. Il y a ceux qui ont de la chance parce qu'ils ont des parents qui les aident, et puis il y a les autres. Comment est-ce qu'on s'en sort quand on a 200 euros, nous disait le jeune homme, d'APL, qu'on en a pour 500 euros de sa poche, qu'il faut en même temps suivre des études, dont on ne sait même pas si ça va déboucher sur un emploi au bout du bout, qu'on est dans une crise sanitaire qui n'en finit plus. Comment est-ce qu'on fait ?
Alors, je pense d'abord que les étudiants ne sont pas les plus à plaindre. Grand suspense, grand froid dans le studio. Pourquoi ? C'est parce que les plus pauvres, ce ne sont pas les étudiants. Ce sont justement des jeunes entre 18 et 25 ans qui ne sont ni en emploi, ni en formation, et qui sont dans une mouise encore plus noire.
On va en parler de ces jeunes-là.
Pas forcément à juste titre. Deuxième chose, si on fait un revenu universel pour tous ces jeunes, à hauteur de 500 euros par mois, ça ne changera pas la vie de ceux qui sont déjà à 500 euros par mois et qui sont dans la mouise. Marc de Basca connaît ce contre-argument. Alors, qu'est-ce que l'on fait ? Moi, j'ai une proposition. Autre, neuf, parce que ces débats, on les a depuis une vingtaine d'années, c'est de faire, comme on a fait des prêts garantis pour les entreprises, à hauteur de dizaines ou de centaines de milliards d'euros, des prêts garantis par l'État, on fasse des prêts garantis pour ces jeunes. On peut leur prêter des sommes très consistantes.
C'est le système américain, ils sont obligés de rembourser. C'est comme les Américains qui sont obligés d'emprunter des sommes colossales pour payer leurs universités.
Oui, mais c'est un financement, là, les prêts qui sont débloqués aux États-Unis et qui ruinent les étudiants, pour les étudiants, seulement pour les étudiants, et pour payer des universités qui coûtent une fortune. En France, je le répète, les universités, d'ailleurs c'est un problème, ne coûtent rien. Et on fait un système de prêts contingents, c'est-à-dire qu'ils ne commenceraient à rembourser que lorsqu'ils atteignent un certain niveau de revenu. Ça change complètement la donne.
Proposition intéressante, on en parle dans quelques secondes et puis on parlera du RSA. Pourquoi le RSA n'existe pas pour les 18-25 ans ? Vous répondrez dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, avec la suite du débat du Club des idées à 19h42 et jusqu'à 20h, vous l'avez compris, on s'intéresse aux étudiants qui sont en grande détresse aujourd'hui et aux jeunes, justement, aux jeunes qui ne sont pas forcément des étudiants et qui sont financièrement en difficulté. Je voudrais qu'on s'intéresse à une mesure dont on parle beaucoup en ce moment, l'ouverture au RSA pour les 18-25 ans. Pour l'instant, le gouvernement dit saignette. Écoutez Bruno Le Maire, ministre de l'économie.
Toujours non, parce qu'à 18 ans, ce qu'on veut, c'est un travail. Qu'on apporte des aides particulières aux jeunes qui sont les plus en difficulté. Oui, bien entendu, parce que nous, notre politique, c'est mettre l'argent là où cela permet à un jeune de trouver un emploi.
Alors moi, j'ai une question très simple à vous poser. Pourquoi est-ce que quand on a 18 ans, on a le droit de cotiser, on a le droit de voter, on est responsable pénalement de nos actes, mais on n'a pas le droit au RSA? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit au RSA à partir de 18 ans? Qui veut répondre? Marc de Basquiat, vous êtes économiste.
Je ne répondrai pas à ça, c'est aberrant. C'est aberrant. C'est une histoire ancienne, c'est quelque chose, c'est le fruit de conservatisme français qu'on connaît bien, qui fait qu'on garde des trucs anciens. C'est là, je vous disais qu'il y a 20...
Donc vous seriez favorable à l'ouverture aux 18-25 ans du RSA?
Non,
revenu minimum, ça j'ai compris.
Regardez,
mais à court terme.
À court terme, regardez, nous avons des aides pour les parents, nous avons des aides fiscales, des aides sociales, nous avons 20 machins différents. Le gouvernement, évidemment, n'a pas envie de créer un 21e truc pour les jeunes, qui s'appellerait le RSA pour tous les jeunes, en plus du reste.
Oui, mais les jeunes qui ne sont pas étudiants, ils n'ont pas le droit à grand-chose, mais pardonnez-moi.
C'est le problème, c'est ça le problème. Donc il faudrait vraiment dire, ok, maintenant, on arrête les bêtises, les 20, une grande partie des 20, on les met de côté, et on met en place 500 euros pour tous les jeunes, de manière systématique, ça ne coûterait pas très cher. Par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, il y a des exceptions dans tous les sens, ça ne serait pas très cher.
Bien, revenu minimum à ma gauche. Christian Saint-Etienne, qui est en face de moi, vous êtes économiste également. C'est vrai que quand on regarde ça de façon un peu détachée, c'est assez aberrant que les jeunes de 18-25 ans n'aient pas le droit au RSA. Pourquoi 25, pourquoi pas 18?
Parce que le RSA, de manière générale, devait être un revenu d'activité, c'est-à-dire qu'il devait accompagner le retour à l'activité.
Il y a un RSA socle, c'est l'héritage du RMI.
Mais c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, on n'arrive jamais à réellement aller jusqu'au bout des choses, puisque dans le RMI, qui était un revenu minimum d'insertion, il y avait peut-être 3% d'insertion. Dans le revenu minimum d'activité, il y a des aides complémentaires qui sont versées à ceux qui travaillent, mais pour le reste... le retour en activité reste très faible.
Mais donc ça veut dire la société accepte de laisser un individu de 23 ans sans aucun revenu.
Non, mais il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas présenter comme ça.
Julien, c'est comme ça qu'on présente
les choses depuis 50 ans dans notre pays. Donc en fait, il faut partir des réalités sociales. Donc comme l'a dit Julien Damon, être étudiant avec la perspective de gagner plus tard de l'argent, ce n'est pas du tout la même chose que d'être hors des études. Et dans les deux cas, quand on est en difficulté, pour notamment les 2 millions de jeunes qui sont ni en emploi ni en études, la question centrale, c'est pourquoi le système conduit à ce que chaque année, il y ait 80 000 jeunes sans formation et sans diplôme, qui sortent de...
Mais ça, c'est une réflexion de long terme, Christian.
Non, ce n'est pas une réflexion de long terme, puisque c'est une réflexion... Alors, on pourrait transformer votre remarque de long terme sur le long terme, parce qu'en fait, ça fait 30 ans qu'on le dit. Mais à un moment donné, ce qu'il faudrait, c'est mettre en place... Des réformes structurelles sur l'éducation, le collège unique, l'école primaire. Je termine juste par là. Il y a des études récentes qui montrent que le niveau d'études à la fin du CE1 est prédictif à 80% de la réussite ou de l'échec à 18 ans.
D'accord, donc, rendez-vous à 15 ans, c'est ça.
Pourquoi est-ce qu'on ne met pas le paquet pour s'assurer que les enfants sachent lire, écrire et compter à la fin du CE1? Ça serait déjà une étape majeure pour réduire le nombre de nets.
Alors, Julien Damon, sociologue, même question, pour ou contre l'élargissement de ce RSA aux 18 ans, aux 18-25?
Je crois que la question se pose de manière... aigu aujourd'hui, mais que c'est un débat éternel. Alors, l'éternité commence en 1988, en réalité, lorsqu'on vote le RMI. Le RSA, aujourd'hui, c'est grossièrement le RMI, RSA socle, etc. Oui, ceci a été balayé par l'histoire. À la tribune de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Michel Rocard, lorsqu'on crée le RSA, évoque le fait qu'il ne veut pas que les jeunes, je cite, viennent compter parmi... du Rocard, les abonnés de l'assistance.
Oui. Et le point premier... on est dans une situation différente. Il y a une crise sanitaire, il va y avoir un million de chômeurs.
Mais il faut bien distinguer par rapport à ce que va vous répondre Julien Damon. les aides ponctuelles, moi je suis pour, et les aides permanentes. Voilà.
Ouais. Alors,
mon sentiment, c'est qu'il faut innover. Si on se bagarre longuement encore sur la question du RSA, ça prendra 2 ans avant qu'il ne se passe rien. Voilà. Donc on peut faire tout à fait autrement, et il y a d'autres possibilités, il y a d'autres idées en matière de soutien aux jeunes adultes, qui relèvent un peu d'ailleurs de la théorie du revenu universel, c'est des dotations en capital. Si vous donnez 500 euros par mois d'assistance à des gens, ça change leur perspective quotidienne. Ça change, c'est une expression qui a été employée par des économistes, ce qu'ils ont dans le, pour leur déjeuner ou leur dîner. Si vous leur faites une dotation en capital importante de 10 000, 20 000, 30 000 euros, vous changez complètement leur perspective dans la vie. Et pour les jeunes, il vaut mieux changer les perspectives dans la vie que d'assister.
C'est une réflexion, pardon, à plus long terme, qui peut entrer en application rapidement.
Mais ça peut entrer en application extrêmement rapidement.
Et moi, je
rapidement.
Vous parle aussi d'un rapport à l'équité. Pourquoi est-ce qu'à 25 ans, on a le droit à quelque chose, alors qu'à 18 ans, on est aussi responsable qu'à 25 ans?
Je ne vous ai pas donné la réponse. La réponse, c'est que dans le système social français, l'idée, elle est juste ou non, mais l'idée qui prévalait au fait qu'on n'a pas ouvert le RMI et puis ensuite le RSA au moins de 25 ans, c'est parce qu'on considère que c'est à la famille de s'en occuper. Est-ce juste? Est-ce bien? Ça a été le fondement de cette décision.
Alors, les choses ont un peu changé depuis, évidemment. Marc de Basquiat, pour revenir à l'idée qui est la vôtre, un revenu minimum, encore une fois, c'est bien, mais ça pourrait mettre, dans le meilleur des cas, des années à être mis en place. À court terme, que proposez-vous?
À court terme, il faut rentrer dans la logique de dire un jeune qui a 18 ans, c'est devenu un adulte. Et donc, débrancher tous les systèmes actuels qui ont plein de trous. Il y a plein, ceux qui ne sont pas étudiants, ils n'ont pas de bourse. Ceux qui n'ont pas du tout boulot, ben, ils n'ont rien du tout. Enfin, on a vraiment une complexité qui est son nom. Ceux qui sont seuls dans leur famille, ils ne sont pas d'aide familiale non plus. Il faut rebâtir le système en disant, voilà, un jeune, c'est 500 euros, point final, plus des aides au logement. C'est extrêmement simple en réalité. Débrancher une dizaine de mécanismes qui sont tous les plus compliqués les uns que les autres, c'est pas compliqué de les débrancher. Il faut une décision politique.
En tout cas, c'est vrai que tout le monde avait dit que c'est une proposition un peu farfelue il y a quelques années, et maintenant on observe que
c'est la solution.
Je vous rassure, ça n'entrera pas en vigueur après.
Non, mais c'est pas ça.
Mais
c'est,
on voit qu'il y a plein de politiques qui s'en emparent.
Il y a deux façons d'aborder le sujet. Il y a deux problèmes. Je ne développe pas. Il y a deux problèmes. Des aides à court terme par rapport à un régime permanent. Donc là, on est tous d'accord pour des aides à court terme. L'autre sujet, c'est quand on met en place des systèmes comme ça, est-ce que c'est sous condition de ressources ou est-ce que c'est
universel,
généralisé
universel,
si vous faites un calcul très simple. D'abord, on a dit à 500 euros, si vous êtes étudiant à Lille ou à Paris, vous ne vivez pas. Donc, mais passons. Mais 500 euros par personne, ça fait 6 000 par an. Si vous avez, pour faire simple, un million de jeunes qui le reçoivent chaque année pendant 7 ans, hein, vous êtes à plus de 40 milliards. Oui, le budget de l'enseignement supérieur, il est à peine supérieur à 20 milliards. C'est-à-dire qu'on est prêt à mettre 2 fois le budget de l'enseignement supérieur sur ces questions, plutôt que de rénover le système éducatif et d'améliorer les conditions d'accueil des étudiants dans les facs. Donc le point pour moi important, c'est une action différenciée qui prenne en compte les capacités des jeunes et leur engagement dans leurs études.
Bien, merci à tous les trois. Je suis navré, on est contraint de s'arrêter. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Et je tiens à remercier et à saluer Antoine qui était avec nous par téléphone. Ce jeunes étudiants, on souhaite évidemment beaucoup de courage dans les mois qui viennent aux étudiants et aux jeunes qui rencontrent des difficultés particulières. Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous, 19h50 dans quelques secondes, les archives d'Europe Soir. Et ce soir, on va revenir sur le scandale de l'Arc. C'était il y a 30 ans, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h53, on passe désormais aux archives d'Europe Soir, comme tous les soirs à cette heure-ci. Quand le passé éclaire le présent, 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
Un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos.
Voilà. Bonsoir Pauline Jacquot.
Bonsoir.
Ce soir, nous allons nous replonger avec vous au cœur d'un scandale. Détournement de fonds, surfacturation, abus de biens sociaux, c'est une affaire totalement inédite. Le monde associatif est touché. Nous sommes en 96, c'est le scandale de l'ARC, l'association de recherche sur le cancer, qui ébranle l'opinion. L'onde de choc est immense. Le 19 janvier, le président de l'ARC, Jacques Crouse-Marie, démissionne.
Et la nouvelle fait évidemment les gros titres ce matin-là. Il est 7h sur Europe 1. C'est l'ouverture du journal de Vincent Parisot.
Jacques Rosemary démissionne de la présidence de l'ARC, l'association de recherche pour le cancer. Il avait été gravement mis en cause par la Cour des comptes pour la gestion de l'association. Et d'ailleurs, une information judiciaire a été ouverte récemment.
Ça y est, le président fondateur de l'ARC, la plus grosse organisation du genre dans toute l'Europe, quitte ses fonctions. Il est poussé dehors après la publication d'un chiffre. À l'origine, la Cour des comptes, 27,2% seulement du budget de l'association sont consacrés à la recherche. Stupeur dans les rangs de l'ARC, stupéfaction au conseil d'administration.
Monsieur Crosemary m'a affirmé clairement que plus de 50% du budget de l'ARC passait à la recherche. Et puis la deuxième chose, c'est ces faits quand même très choquants de surfacturation, de procédés budgétaires très critiquables et qui faisaient finalement que l'argent que donnait le donateur était détourné à des fins qu'on pourrait appeler de l'escroquerie ou crapuleuse en tout cas.
Jacques Crosemary aurait détourné 300 millions de francs. Villa de luxe dans le Var, appartement parisien, bateau, compte en Suisse. L'homme est un escroc, sa oui. marionnette deviendra célèbre sur la chaîne cryptée. Il sera vite maquillé en parrain de la mafia par les guignols de l'info.
Oui, et les répercussions de cette affaire, Pauline, sont immenses dans le milieu associatif.
Le scandale jette le discrédit sur toute la cancérologie. La Ligue nationale contre le cancer perd 15% de dons, 40% pour certains centres de recherche. Les associations de lutte contre le sida sont-elles aussi touchées ? Aide reçoit des lettres d'insultes, des courriers sur le thème « Tous pourris ». L'opinion publique est dégoûtée par cette association qui n'hésite pas à afficher des enfants malades dans leurs vidéos d'appel aux dons. L'ARC, donc, le téléphone, n'arrête pas de sonner. Colère, injure, l'association s'effondre. En un an, elle perd 400 000 donateurs.
400 000 donateurs. Jacques Crosemary qui va être, quelques mois plus tard, condamné donc par la justice.
4 ans de prison pour l'omniprésent, l'omnipotent président de l'ARC. 1,5 million de francs d'amende pour celui qui a fondé l'association après la mort de sa fiancée d'un cancer du cerveau. Vu comme un altruiste solitaire, dévoué à sa mère, à son chat. Au fil de l'instruction, le vrai Crosemary se dévoile. Amateur de chasses africaines, voyage offert aux Seychelles, entouré de jeunes dames de compagnie. Escroc notoire finalement, menant grand train aux frais du cancer. Écroué à la prison de la santé en l'an 2000, il y restera 2 ans, 24 petits mois. C'est bien peu, disent certains administrateurs de l'ARC, comparé au traumatisme qu'il a causé.
C'est la pire des escroqueries qu'on puisse imaginer, de détourner cet argent-là. Donc les premiers qui vont être ulcérés, ils le sont d'ailleurs, toujours un petit peu, ils vont l'être davantage maintenant qu'ils sauront que ce monsieur est libre.
Jacques Crosemary ne concédera jamais rien, lui qui lancera sa sortie de prison en 2002. « Je n'ai jamais compris pourquoi j'ai été condamné, je ne le comprendrai jamais. » Il est mort 4 ans plus tard, à 81 ans. L'ARC s'est depuis complètement transformé, changement de règles bien évidemment, expertise obligatoire d'une commission scientifique et le président seul ne peut plus accorder le moindre financement.
Merci Pauline pour ces archives toujours instructives. Le jour où, c'est tous les soirs à 19h50 environ dans votre 18-20. Merci de votre fidélité. Dans un instant, le rappel de l'info avec Julien Pierce et juste après Émilie Mazoyer qui reçoit ce soir Yarol. Passez une très très belle soirée. À demain 18h.